Bonjour pour nous présenter deux rendez-vous qui se dérouleront les samedis 20 et 27 mars prochains pour célébrer une fois à Nantes et l'autre fois sur l'internet le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Nous avons joint par téléphone Nicolas de la Casinière.
Oui, allô.
Pourquoi commémorer ?
Commémorer en général ?
Oui, et puis en particulier.
Alors commémorer en général, bof, c'est pas... Même moi je rate les anniversaires et tout, c'était pas trop le sujet. En revanche, marquer le coup du déclenchement de la Commune il y a 150 ans, même si les chiffres 150, 152 ou 140 n'a pas tellement d'importance, bon, c'est une occasion pour rappeler ce que la Commune a pu nous amener dans nos vies, dans les luttes, dans la mémoire commune. Voilà, c'était ça l'idée.
Là et les communes.
Alors, pour avoir lu pas mal de bouquins sur la commune, il est question, évidemment, pour ceux qui connaissent ce morceau de l'histoire, d'autres communes qui se sont soulevées au même moment dans d'autres villes de France. Donc, il y a Lyon, le Creusot, Marseille, il y en a d'autres, Limoges, Saint-Étienne, etc. Et dans les ouvrages sur la commune, on retrouve cette trace d'une commune à Alger qui s'est ralliée à la commune de Paris et qui, pour nous, pose un problème politique, c'est que cette commune-là, ce sont des républicains qui se forment à Alger et qui ont une base commune, c'est la colonisation. Ce sont des colons, des blancs. Et au même moment, essentiellement en Kabylie, mais un peu partout dans l'Algérie, un autre soulèvement se fait jour, qui est, lui, anticolonial, et avec lequel il n'y a aucune passerelle, aucune alliance avec la, entre guillemets, commune d'Alger. Voilà, donc ce morceau de l'histoire est assez peu connu, même nous, on s'est plongé là-dedans, il y a quelques historiens algériens qui ont travaillé là-dessus, mais en discutant avec l'association culturelle berbère, ils nous expliquaient que même en Algérie, les historiens sont beaucoup plus focalisés sur la période de 1950 et jusqu'à aujourd'hui, mais toute cette bascule autour de la libération de leur pays, et très peu sur le 19e siècle, qui est aussi fondateur sur la manière dont la domination française, militaire, s'instaure dans le cours du temps. Donc c'était un peu l'occasion de se décentrer en disant « on aime beaucoup ce qu'a déclenché la Commune de Paris, mais c'est bien de le faire aussi comme ça ». Et on aurait pu aussi s'intéresser à ce qui s'est passé en Martinique, où il y a eu aussi une révolte qui est parti d'un incident, d'un métis, comme disent les textes, qui n'a pas voulu se ranger au passage d'un béquet blanc et qui s'est fait bastonner. Et ça a déclenché une révolte très importante que là aussi l'armée a maté dans le sang. Donc il y avait d'autres épisodes que ce qui se passe à Paris. Il se trouve qu'à Nantes, aucune commune n'a été soulevée en 1871. Et donc voilà, c'est un peu l'occasion de se dire qu'il y a des événements qui nous parlent encore aujourd'hui, quoi.
Ce qu'il faut noter, c'est que la période, elle est très très courte.
Ah ben, la Commune de Paris, c'est 72 jours. Et en tant que militant, on a plutôt tendance à s'intéresser au déclenchement de la Commune et au premier jour, et pas à la fin, la fameuse semaine sanglante, qui est une répression féroce et meurtrière de la part de l'armée de Versailles, qui est plutôt une défaite atroce. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de se dire en si peu de temps, la Commune à Paris a réussi à bousculer ou renverser la table, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, sur un certain nombre de points qui nous causent encore aujourd'hui. C'est comment dire l'héritage politique de la Commune qui nous intéresse, plus que, on va dire, il y a une certaine imagerie de la Commune avec des barricades, des gens en uniforme, donc c'est l'aspect militaire qui n'est pas à négliger parce que ça a été une guerre civile de la garde nationale, c'est-à-dire les gens en armes qui étaient le peuple de Paris contre l'armée régulière de Versailles, donc de Thiers, mais aussi qui représente la République à ce moment-là, donc il y a quand même une ambiguïté sur le sujet. Alors, Évidemment, l'armée française, qui se croyait la plus forte, s'est fait battre à plate couture à Sedan, et donc elle arrive un peu minable, poursuivie par les Prussiens qui pénètrent dans Paris. Je pense que le rapport populaire à l'armée est aussi quelque chose qui est problématique, puisque l'enrôlement de chair à canon ne passe jamais super bien, quoi, même avec des monceaux de nationalisme. Et d'ailleurs, pendant la Commune, le fait d'avoir écroulé la colonne Vendôme était aussi ce symbole des guerres napoléoniennes qui ont été là, du coup, célébrées par cette colonne et qui, pour le peuple de Paris, représentaient le gâchis de vie humaine, là, pour l'Empire. Donc, le fait de sacrifier pour des intérêts qui ne sont pas autres, c'est un peu le ferment de l'antimilitarisme à toutes les époques. Et donc, l'armée qui enrôle aussi beaucoup des gens en province et qui vient de perdre et se retourne contre le peuple, fait quand même quelque chose qui est un ingrédient, on va dire, commun des communards. Les communards qui se retrouvent en armes, forcés contraints, récupèrent les canons qu'ils ont payés eux-mêmes, puisque la garde nationale, c'est, on va dire, une milice populaire, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Et le contexte, effectivement, est assez lourd de ce côté-là, du rejet de cette armée qui représente tellement de malheurs, de misères, de vies sacrifiées, qu'il n'y a pas une adhésion nationale, quoi.
On va parler un peu de l'héritage qui n'a pas été transmis. Notamment, je reviens sur les élections. À partir du moment où on adhérait aux principes généraux partagés par le collectif, on pouvait être élu.
Il y a quand même des limitations à cette question du vote et du suffrage universel. C'est que les femmes en sont totalement exclues. Mais alors là, on pourrait gloser aussi sur le mouvement ouvrier qui est relativement misogyne sous l'instigation notamment du courant anarchiste proudhonien qui considère que la femme doit rester à la maison et que si elle vient travailler dans l'atelier, elle va être utilisée par le patron pour faire baisser les prix et donc c'est au préjudice de tout le monde. Et que d'une manière générale, elle n'a pas voix au chapitre dans la vie politique, donc la question du vote se pose pas tellement. Et les féministes de la Commune n'ont pratiquement pas revendiqué ça, elles ont trouvé leur place, mais si on regarde quelques personnalités importantes comme Elisabeth Dmitrieff, Paul Minck ou Louise Michel, ou André Léo, personne ne va sur ce terrain de la revendication, aucune d'elles n'est sur ce sujet de la revendication du droit au suffrage universel. Ça prendra beaucoup de temps après.
Qu'est-ce que tu mettras en avant comme acquis important ?
Dans les acquis importants de la Commune, il y a, là aussi il faut rappeler le contexte, l'éducation c'est les bonnes sœurs, hein, et donc la Commune décrète la laïcité dans l'éducation. On est quand même 34 ans avant la loi de 1905. La peine de mort représentée par la guillotine est aussi un des acquis puisqu'on brûle la guillotine 110 ans avant l'abolition de la peine de mort en France. Les réquisitions de logements vacants et des sans-logis, bon, ça, aucun gouvernement n'a eu le courage de le faire depuis malgré les lois qui existent. Et puis, l'Union des femmes pour la défense de Paris, donc cette association féministe très organisée pendant la Commune, fédère des centaines d'ouvrières en coopérative en revendiquant l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Ce qui, effectivement, va à contre-courant, notamment de ce que pense une partie de la classe ouvrière, pas toutes, mais sont divisées sur le sujet. Donc là-dessus, il y a quand même un certain nombre d'actes qui sont posés, qui sont, on va dire, précurseurs des émancipations qui vont venir ou qui ont eu du temps à être mis sur le tapis, quoi.
Vous avez relevé des traces de cette commune sur l'agglomération nantaise, des traces d'un côté comme de l'autre, hein, du côté des communards comme du côté des Versaillais.
Ah bah, du côté des Versaillais, il y a un personnage qui n'est pas tout à fait glorieux, qui est le général Vinois, qui n'a pas grand-chose à voir avec Nantes, mais qui est enterré, et qui est un des premiers responsables de la répression de la Commune, sanglante et fusillé à tour de bras, qui n'ira pas jusqu'au bout parce qu'on le trouve pas assez féroce, on trouve toujours pire, mais ce général Vinois, il est dans le cimetière de Miséricorde, à côté de la place Vierme, là, dans un beau caveau de famille, donc il y a des personnages comme ça. On s'est dit aussi que le monument aux morts sur la place de la Duchessanne, pas loin de la gare, et en bas du cours Saint-André, présente sur ses quatre faces des soldats en bronze qui sont des soldats, donc c'est en hommage aux morts de cette campagne contre les Prussiens là, en 1870, début 1871, mais ce sont les mêmes régiments et les mêmes uniformes qui ont été les bourreaux collectifs des communards. On ne sait pas trop le nombre de morts, mais c'est par dizaines de milliers. Donc ça fait toujours bizarre de rendre hommage à des gens qui ont participé à une guerre civile et qui ont tué un bon paquet de gens qui revendiquaient finalement un peu de liberté, de l'autodétermination, des droits, et finalement qui sont précurseurs d'autres communes dans le monde aujourd'hui. Mais on peut penser au Chiapas, au Rojava kurde. Voilà, on pourrait parler longtemps aussi de l'héritage qui a été capté par les bolcheviks qui en ont fait dans l'Empire soviétique leur modèle, qui aurait été un peu plus que de la captation d'héritage et de l'escroquerie. Mais bon, ça c'est une autre question.
Ces personnes qui se trouvaient donc dans le camp adverse des Versaillais, on leur offre une petite ruelle ou une rue un peu excentrée.
Il y a une rue Nathalie Lemel, notamment, qui est une relieuse qui appartient à l'AIT, à l'Association internationale des travailleurs, qui monte avec Eugène Varlin, qui est lui aussi relieur. Des restaurants coopératifs, il y en a plusieurs en 1869 et qui s'éteindra avec la commune, qui sont des lieux d'organisation et de bouffe, puisque c'est des restos. Ça s'appelle La Marmite. Dans Paris, et il est coopératif, et il y en aura 3 ou 4. C'est un endroit où on vient manger pour pas cher, et où aussi on vient lire la presse avec des abonnements communs. Voilà, il y a un système comme ça. Et Nathalie Lemel est tout à fait à la manœuvre, et on va la retrouver aussi dans l'Union des femmes pour la défense de Paris, dont je parlais tout à l'heure, aux côtés de dizaines et dizaines de femmes qui se sont auto-organisées pour à la fois l'intendance, mais prendre une place politique aussi dans cette commune qui a duré si peu longtemps, mais qui a eu tant d'importance.
Et on peut dire un mot aussi sur le journaliste écrivain Jules Vallès.
Effectivement, si on cherche des traces un peu artificiellement de se dire qu'est-ce qui nous relie un peu à la commune dans Nantes, il y a le lycée Clémenceau, puisqu'il passe plusieurs personnages qui sont connus dans le registre de la commune. Il y aura évidemment Georges Clémenceau, qui ne s'appelle pas de son nom à ce moment-là, c'est le grand lycée. Mais il y a aussi Jules Vallès, donc Jules Vallès qui est à Nantes comme lycéen. Dans la trilogie de Jules Vallès, il y a l'enfant, le bachelier et l'insurgé. Et c'est dans le bachelier qu'on voit son passage à Nantes, son père qui travaille comme prof dans le lycée. Voilà, donc il nous semblait être un personnage plus intéressant dans la mémoire commune qu'un Jules Verne, un autre Jules, qui lui a plutôt fait comme tous les écrivains bourgeois de cette époque-là, à penser que la commune c'était d'immondes barbares et qu'ils n'avaient mérité que ce qu'ils ont eu comme répression et qu'il n'y avait pas à y chercher plus que ça. Il y a quelques rares exceptions, Victor Hugo en fait partie, mais pour le reste, tout le monde a hurlé avec les loups en disant des barbares, des hystériques, des fous. Voilà, donc du côté de ces écrivains, il n'y a pas grand-chose à trouver. Et Vallès, lui, il est dans le camp des communards. Il est effectivement élu de la commune. Et puis, en tant que journaliste, il est très, très actif aussi dans toute cette période.
Deux rendez-vous sont proposés, samedi prochain et puis le suivant. L'un en présentiel, l'autre en distanciel. Il faut parler comme ça maintenant. C'est à l'initiative de qui ?
Les deux rendez-vous du samedi 20 mars et du samedi 27 mars sont à l'initiative conjointe ou commune, on pourrait dire, de la CNT, syndicat anarcho-syndicaliste, de l'UCL, l'Union communiste libertaire, et de l'Association culturelle berbère. Donc dans le premier temps, samedi 20, sous les nefs, on lira des textes de ces décisions politiques de la commune. On évoquera aussi l'insurrection kabyle de 1871. Il y a aussi un peu de travail, commun via un atelier d'éducation populaire sur les liens entre cette époque et aujourd'hui. Donc voilà, un peu de fanfare et d'une chorale. Ça, c'est pour samedi 20. Et la semaine d'après, le samedi 27, là, donc, on est World Wild, puisque c'est donc la capacité de n'importe où, de la Kabylie, de Paris ou de je sais pas où, et de Nantes, de suivre une conférence sur cette insurrection kabyle qu'on connaît si mal, qui a quand même fait 30 000 morts et soulevé un tiers de la population algérienne à l'époque, hein, c'est pas rien, et qui, elle, dure de mars 1871 jusqu'à, alors elle dure beaucoup plus longtemps, parce qu'au côté de l'armée française, on a un peu de mal, et ça dure jusqu'en janvier 1872. Voilà, donc on parlera de ça, de en quoi c'est un moment fondateur aussi dans l'établissement de l'Empire colonial, de en quoi la répression a été commune aux communards et aux insurgés kabyles, puisqu'une partie se retrouve en Nouvelle-Calédonie ensemble, et que là, il y aura des liens qui se feront, puisque Louise Michel et d'autres vont prendre leur défense, parce que au moment de l'amnistie, il y a une amnistie envers les déportés communards qui n'est pas appliquée aux insurgés kabyles, et donc ils vont, depuis Paris, militer pour avoir une égalité de droit avec leurs compagnons de déportation. Donc voilà, les liens ne se sont pas faits à l'instant T en 1871, ils se sont faits après, dans la répression.
Qui animera la conférence ?
Deux membres de l'association culturelle berbère nantaise, là, Brahim et Hossine, qui vont faire un peu tous ces rappels sur cette période importante et finalement assez méconnue, même en Algérie, de leur histoire.
Vous avez choisi quel type d'application pour la version à distance et mondiale ?
On ne sait pas encore, on ne sait pas encore. Parce qu'on pense qu'il faudrait un truc qui tienne 250 personnes, et ce qu'on a pratiqué JT jusqu'à présent ne tenait pas bien, donc on cherche et ce sera les pages Facebook qui vont donner ça. Je pense que d'ici samedi, ça sera réglé. On a annoncé l'événement sur une alternative libre à Facebook qui s'appelle Mobilison, M-O-B-I-L-I-Z-O-N. C'est les gens de l'UCL qui ont fait ça. Il n'y a évidemment pas la puissance de feu de Facebook, mais si on se soumet de manière permanente aux GAFAM, machin, ben, effectivement, on pourra juste que râler et puis continuer, quoi. Donc c'est une tentative aussi de d'esquiver le pouvoir incroyable de ces sociétés.
Merci à Nicolas de la Casinière pour sa libre présentation des deux rendez-vous qui se dérouleront les samedis 20 et 27 mars prochains pour célébrer une fois à Nantes et l'autre fois sur l'Internet le 150e anniversaire de la Commune de Paris.